Chapitre 7. Philippe rentre en scène. Le lendemain fut très pluvieux. C'était une de ces journées où les voisins de sexe masculin, qui n'ont pas chez eux quelque occupation impérieuse, aiment à faire à leurs belles amies quelques visites d'une longueur illimitée. La pluie, qui a paru assez supportable pour venir à pied ou à cheval, devient immanquablement si violente, et en même temps il est si probable que le temps va s'éclaircir, qu'une dispute en règle peut seule abréger la visite, ce que ne pourrait faire une haine latente. Et si par hasard les gens sont amoureux, que peut-il y avoir de plus délicieux en Angleterre qu'une matinée pluvieuse? Le soleil dans ce pays est incertain. Les chapeaux ne sont jamais à l'abri du danger des averses. Si vous vous asseyez sur l'herbe, vous risquez de vous enrhumer. Mais la pluie est une chose sûre. Vous la bravez à cheval ou sous un mackintosh, et vous vous trouvez bientôt sur le fauteuil que vous aimez le mieux, un peu plus haut ou un peu plus bas que votre déesse ne s'assied, ce qui est la même chose pour un esprit métaphysique. Et c'est pour cela que les femmes sont en même temps adorées et regardées de haut. Vous êtes là avec l'assurance satisfaisante qu'il ne viendra point de visite de dame. Stephen viendra de meilleure heure ce matin, j'en suis sûr, dit Lucy. Il le fait toujours quand il pleut. Maggie ne répondit pas. Elle était fâchée contre Stephen. Elle commençait à croire qu'elle aurait de l'éloignement pour lui, et si ce n'eût été la pluie, elle serait allée tout droit chez sa tante Glegg et aurait par là évité de le voir. Mais les choses étant ainsi, elle trouverait quelque raison de rester hors du salon avec sa mère. Mais Stephen ne vint pas de meilleure heure, et il y eut une autre visite, un voisin plus rapproché, qui le précéda. Quand Philippe entra dans la chambre, il pensait se contenter de saluer Maggie, sentant que leur connaissance était un secret qu'il était engagé à ne pas trahir. Mais quand elle s'avança vers lui en lui tendant la main, il devina aussitôt que Lucy avait été mise dans la confidence. Ce fut un moment d'émotion pour tous les deux, quoique Philippe eût passé plusieurs heures à s'y préparer. Mais comme toutes les personnes qui ont traversé la vie en s'attendant à peu de sympathie, il perdait rarement son empire sur lui-même et évitait avec la fierté la plus naturelle de laisser apercevoir en lui la moindre émotion. Un peu plus de pâleur, une légère tension des narines en parlant, la voix sur un diapason un peu plus élevé, ce que les étrangers eussent pu prendre pour une expression de froide indifférence. Voilà les seuls signes extérieurs que Philippe laissait ordinairement paraître d'un drame intime qui ne manquait pas de violence. Mais Maggie, qui n'avait guère plus le pouvoir de cacher les impressions qu'elle recevait que si elle eût été composée de cordes vibrantes, sentit ses yeux se remplir de larmes lorsqu'ils se prirent mutuellement la main en silence. Ce n'étaient point des larmes pénibles. Elles avaient quelque chose de celles que versent les femmes et les enfants lorsqu'ils ont trouvé quelque protection à laquelle ils peuvent se fier en considérant un danger auquel ils viennent d'échapper. Car Philippe, peu de temps avant, continuellement associé dans la pensée de Maggie aux reproches que Tom pourrait lui faire avec quelque justice, était maintenant devenu pour elle, dans un espace de temps bien court, une espèce de conscience extérieure à laquelle elle pouvait en appeler pour trouver force et protection. Cette tranquille et tendre affection qu'elle ressentait pour Philippe avait ses racines dans son enfance, les souvenirs de leur longue et calme conversation sanctionnant par des impressions claires et répétées son premier penchant instinctif. Comme elle était plus fortement attirée vers lui par sa pitié et son dévouement féminin que par sa vanité ou quelque autre mobile égoïste de sa nature, Philippe lui semblait maintenant devenir une espèce de lieu sacré, un sanctuaire où elle pouvait trouver un refuge contre l'influence trop attrayante à laquelle la meilleure partie d'elle-même devait résister, car sans cela, il n'y aurait que tumulte horrible en son cœur et terrible infortune autour d'elle. Cette nouvelle manière d'envisager sa relation avec Philippe diminua les scrupules inquiets que, sans cela, elle aurait éprouvé dans la crainte de dépasser la limite des rapports que Tom autoriserait. Et elle lui tendit la main sans ressentir aucun reproche intérieur. Ce fut ce qu'espérait Lucy, et son cœur bienveillant se réjouit d'avoir rapproché Philippe et Maggie. Quoique, même avec toute son estime pour Philippe, elle ne put résister à l'impression que son cousin Tom avait bien quelque excuse de se dire choqué de la disproportion physique qui existait entre eux. un individu prosaïque comme son cousin Tom, qui n'aimait ni la poésie ni les contes de fées. Mais elle parla le plus tôt possible pour les mettre à l'aise. « Il y a beaucoup de bonté et d'amabilité de votre part, » dit-elle de sa jolie petite voix grave, comme les notes basses de la conversation des petits oiseaux, « à venir aussitôt après votre arrivée. » Et puisqu'il en est ainsi, je crois que je vous pardonnerai de vous être sauvé d'une manière si intempestive, sans avertir vos amis. « Venez vous asseoir ici, » continua-t-elle, en avançant la chaise qui devait le mieux lui convenir, « et nous vous traiterons miséricordieusement. » « Vous ne gouvernerez jamais bien, Miss Dean, » dit Philippe en s'asseyant, « parce que personne ne croira à votre sévérité. Vous encouragerez les gens à se mal conduire par la certitude de votre indulgence. » Lucy hasarda quelques plaisanteries pour le contredire, mais Philippe ne les entendit pas, car il s'était naturellement tourné vers Maggie, qui l'examinait de ce regard ouvert et affectueux dont nous étudions un ami qui a longtemps été absent. Quel souvenir pour Philippe que ce moment de leur séparation. Il lui semblait n'en être qu'au lendemain. Il se le rappelait si vivement, avec une telle intensité, avec tant de détails, avec un retour si passionné à tout ce qui s'était dit, à tous les regards échangés dans cette dernière conversation, qu'avec la jalousie et la défiance qui s'unissent presque toujours à un sentiment vif dans les natures timides, il crut trouver dans les regards et les manières de Maggie la preuve d'un changement. Le fait seul de le craindre et de s'y attendre à moitié suffisait pour donner naissance à cette pensée en l'absence de toute preuve du contraire. « J'ai de belles vacances, n'est-ce pas ?» dit Maggie. « Lucy est comme une fée marraine. Elle m'a changé instantanément de Cendrillon en princesse. Je ne fais que mes fantaisies toute la journée, et elle trouve toujours moyen de savoir ce que je désire avant que je le sache moi-même. » Alors, je suis sûr que c'est elle qui est la plus heureuse de vous posséder, dit Philippe. Vous lui valez mieux que toute autre société préférée. Et vous avez l'air bien portant. Le changement paraît vous faire du bien. Une conversation artificielle de ce genre continua quelque temps, jusqu'à ce que Lucy, décidée à y mettre fin, s'écria d'un air de contrariété très naturelle qu'elle avait oublié quelque chose. Et elle fut promptement hors de la chambre. À l'instant, Maggie et Philippe se rapprochèrent et leurs mains se réunirent, avec l'air d'une satisfaction attristée, comme celle qu'éprouvent des amis qui se rencontrent sous l'influence d'un chagrin récent. J'ai dit à mon frère que je désirais vous revoir, Philippe. Je lui ai demandé de me délier de ma promesse, et il y a consenti. Maggie aurait voulu faire connaître tout de suite à Philippe quelle devait être leur position l'un vis-à-vis de l'autre, mais elle se contint. Les changements survenus depuis qu'il lui avait parlé de son amour pour elle étaient si pénibles qu'elle redoutait d'être la première à y faire allusion. Il lui semblait presque que c'était faire injure à Philippe que de nommer son frère qui l'avait insulté. Mais il pensait trop uniquement à elle pour être sensible à toute autre chose en cet instant. « Ainsi, nous pouvons au moins être amis, Maggie. Il n'y a rien qui puisse s'y opposer maintenant. » « Votre père ne s'y opposera-t-il pas ?» dit Maggie, en retirant sa main. « Je ne renoncerai à vous pour aucun motif que votre propre désir, Maggie, » dit Philippe en rougissant. « Il y a des points sur lesquels je résisterai toujours à mon père, comme je vous le disais. Ceci en est un. » « Alors rien ne s'oppose à ce que nous soyons amis, Philippe, à ce que nous nous voyions et parlions ensemble pendant que je suis ici. Je repartirai bientôt. » Je dois partir incessamment pour une nouvelle place. Est-ce inévitable, Maggie? Oui, je ne dois pas rester ici longtemps. Cela me rendrait peu propre au genre de vie que je dois recommencer après. Je ne puis vivre dans la dépendance. Je ne puis vivre avec mon frère, quoiqu'il soit très bon pour moi. Il désirerait pourvoir à mes besoins, mais cela me serait insupportable. Philippe garda le silence quelques instants, puis il dit de ce ton de voix haut et faible, qui indiquait en lui la résolution de contenir son émotion, « N'y a-t-il point d'autre alternative, Maggie? Est-ce que cette vie, loin de ceux qui vous aiment, est la seule que vous vous permettiez de prévoir? » « Oui, Philippe, dit-elle en le regardant d'un air touchant, comme pour le supplier de croire qu'elle était forcée d'agir ainsi. « Au moins, dans l'état actuel des choses, je ne sais ce que les années pourront amener. » mais je commence à croire que l'amitié ne pourra jamais me procurer beaucoup de bonheur. Il s'y est toujours mêlé tellement de peine pour moi. Je voudrais pouvoir me faire un monde en dehors de l'amour comme font les hommes. Allons, vous revenez à vos anciennes pensées sous une autre forme, Maggie. Les pensées que je cherchais à combattre, dit Philippe, avec une légère teinte d'amertume. Vous désirez trouver un genre de renoncement qui vous fasse éviter le chagrin. Je vous répéterai qu'il n'y a aucun moyen de l'éviter sans pervertir ou mutiler notre nature. Qu'adviendrait-il de moi si j'essayais d'échapper à la douleur? Le mépris et le cynisme seraient mon seul opium, à moins que je ne puisse tomber dans quelque espèce de folie orgueilleuse et m'imaginer être le favori du ciel parce que je ne le suis pas des hommes. L'amertume avait pris plus d'empire sur Philippe à mesure qu'il parlait. Ces paroles étaient évidemment l'expansion de quelques sentiments immédiats. Il était sous l'influence d'une douleur actuelle. Il évitait avec une fierté délicate de faire la moindre allusion aux paroles d'amour ou d'engagement d'amour prononcées naguère. Il lui aurait semblé rappeler à Maggie une promesse, et il en aurait rougi comme d'une bassesse. Il n'aurait point osé non plus parler de sa constance. Cela aussi aurait ressemblé à une question. Son amour pour Maggie portait l'empreinte, encore plus que le reste de ses autres appréciations de la vie, du sentiment exagéré qu'il avait d'être une exception, qu'elle-même ainsi que tout le monde le considérait comme une exception. Mais la conscience de Maggie était réveillée. « Oui, Philippe, dit-elle de ce ton de contrition enfantine qu'elle avait naguère quand il la reprenait, vous avez raison, je le sais. Je pense toujours à mes propres sentiments et pas assez à ceux des autres, pas assez aux vôtres. J'aurais eu bien besoin de vous avoir pour me corriger et m'instruire. Combien les choses que vous me disiez sont devenues vraies. » Maggie, en parlant ainsi, avait le coude posé sur la table et la tête appuyée sur sa main. En regardant Philippe avec une affection à la fois repentante et soumise, tandis qu'il lui rendait son regard avec une expression qui, pour sa conscience à elle, en devenant peu à peu moins vague, paraissait lui parler d'un souvenir plus spécial. Aurait-il quelque pensée à l'égard d'une observation qu'elle se rappelait maintenant? Quelque idée au sujet d'un amant de Lucy? Cette pensée la fit frémir. Elle comprit mieux sa position actuelle et à quoi pouvait mener ce qui était arrivé la veille. Elle ôta son bras de la table, pressée de changer d'attitude par cette oppression physique du cœur qui accompagne quelquefois une soudaine douleur morale. « Qu'y a-t-il donc, Maggie? Est-il arrivé quelque chose ?» dit Philippe dans un état d'anxiété inexprimable. Son imagination n'étant que trop portée à prévoir quelque événement fatal pour tous les deux. « Non, rien, » dit Maggie, en reprenant l'usage de sa volonté. Philippe ne devait pas conserver cette odieuse pensée. Elle voulait aussi la repousser loin d'elle. « Rien, » répéta-t-elle, « si ce n'est dans mon propre esprit. Vous me disiez que j'éprouverais les effets de ma vie à Languie, comme vous l'appeliez. Et cela m'arrive. Je m'attache trop vivement à ces jouissances de musique et de luxe, maintenant qu'elle m'entoure. » Elle prit son ouvrage et s'occupa résolument, tandis que Philippe l'examinait, ne sachant réellement si elle avait dans la pensée quelque chose de plus que cette allusion générale. Il était tout à fait dans le caractère de Maggie d'être troublée par des reproches intérieurs. Mais bientôt un violent coup de sonnette bien connu fit retentir la maison. « Oh, quelle bruyante proclamation !» dit Maggie, tout à fait maîtresse d'elle-même. « Ou peut-être Lucy ?» Lucy n'avait point été sourde à ce signal, et après un intervalle assez long pour satisfaire à quelques questions inquiètes, mais non pressées, elle introduisit elle-même Stephen. « Eh bien, mon vieux camarade, dit-il en allant droit à Philippe lui secouer la main, et saluant Maggie en passant. C'est fameux de vous voir de retour. Seulement j'aimerais que vous vous conduisiez un peu moins comme un moineau résidant sur les toits, et que vous n'allassiez et ne vinssiez pas constamment sans le faire savoir à vos domestiques. Voilà à peu près la 20e fois que j'ai dû grimper vos innombrables marches pour arriver à votre atelier de peinture, et cela pour rien, parce que vos gens vous croyaient chez vous. De tels incidents sont une épreuve pour l'amitié. Je reçois si peu de visiteurs qu'il me semble presque inutile de faire connaître mes sorties et mes rentrées, dit Philippe, se sentant oppressé dans le moment actuel par la brillante présence et par la voix forte de Stephen. Êtes-vous tout à fait bien portante ce matin, Miss Tulliver ? Dit Stephen en se tournant vers Maggie avec une froide politesse et en lui présentant la main comme pour remplir un devoir de société. Maggie lui donna le bout de ses doigts et lui dit « Tout à fait bien, je vous remercie », d'un ton de fière indifférence. Les yeux de Philippe les observaient attentivement, mais Lucy était habituée à voir des variations dans leur manière d'être ensemble et pensa seulement avec regret qu'il y avait quelque antipathie naturelle qui, de temps en temps, l'emportait sur leur bon vouloir. Maggie n'est pas l'espèce de femme que Stephen admire, et elle est irritée de trouver en lui quelque chose qu'elle considère comme de la vanité, était l'observation silencieuse qui expliquait tout pour la sincère Lucy. Stephen et Maggie n'eurent pas plutôt accompli cette salutation embarrassée que chacun se sentit blessé de la froideur de l'autre. Et Stephen, tout en faisant force question à Philippe sur sa récente expédition artistique, pensait d'autant plus à Maggie qu'il ne pouvait l'amener à prendre part à la conversation comme il l'avait toujours fait auparavant. « Maggie et Philippe n'ont pas l'air heureux, » pensa Lucy. Cette première entrevue les a attristés. « Je crois que nous autres gens qui n'avons pas galopé, » dit-elle à Stephen, « sommes un peu influencés par la pluie. Faisons de la musique. » Nous devrions profiter de ce que nous vous possédons tous les deux ensemble. Dites-nous le duo de Masaniello. Maggie ne l'a pas encore entendu, et je crois qu'il lui fera plaisir. Soit, dit Stephen en se dirigeant vers le piano et préludant par quelques mesures de sa profonde voix de basse très agréable à entendre. Vous, Philippe, s'il vous plaît, jouez l'accompagnement, dit Lucy, et alors je pourrai continuer mon ouvrage. Vous voudrez bien le jouer, n'est-ce pas ? Ajouta-t-elle avec un joli petit regard interrogateur, inquiète comme à l'ordinaire, d'avoir proposé une chose qui pût n'être pas agréable à quelqu'un, mais désireuse de pouvoir s'occuper de sa broderie non terminée. L'expression de Philippe s'était animée à cette proposition, car il n'y a peut-être aucune disposition de l'âme, excepté celle de la crainte et de la tristesse extrême, qui ne puisse trouver un soulagement dans la musique. Et Philippe, dans ce moment, avait l'âme remplie de sentiments aussi complexes que jamais trio ou quatuor ait pu en examiner. L'amour, la jalousie, la résignation et les terribles soupçons tout à la fois. « Oh oui, » dit-il en s'asseyant au piano, « c'est une manière d'étendre une vie incomplète que de remplir trois rôles à la fois, chanter, faire chanter l'instrument et entendre les deux choses en même temps, ou bien chanter et peindre. » « Ah, c'est en cela que vous êtes un gaillard à envier. » « Je ne puis rien faire de mes doigts, » dit Stephen. On a généralement observé ce défaut chez les hommes à grande capacité administrative, je crois. Une tendance à la prédominance des facultés réflectives en moi. N'avez-vous pas remarqué cela, Miss Tulliver ? Stephen était retombé sans intention dans son habitude d'en appeler à Maggie en badinant, et elle ne put retenir une prompte épigramme. « J'ai observé une tendance à la prédominance, » dit-elle en souriant. Et Philippe, en ce moment, espéra vivement qu'elle trouvait cette tendance désagréable. « Allons, allons, » dit Lucy, « musique, musique. Nous discuterons les qualités de chacun de nous une autre fois. » Maggie essayait toujours, mais en vain, de continuer son ouvrage quand la musique commençait. Elle l'essaya encore davantage ce jour-là, car la pensée que Stephen savait combien elle aimait à l'entendre chanter n'était plus pour elle une pensée sans importance. Elle savait aussi qu'il avait l'habitude de se placer de manière qu'il pût la voir. Mais ce fut inutile. Elle laissa bientôt retomber son ouvrage, et toutes ses prudentes intentions se perdirent dans l'état vague d'une émotion produite par ce duo si entraînant. Émotion qui semblait la rendre à la fois forte et faible, forte pour toute jouissance et faible pour toute résistance. Quand le ton passa au mineur, elle s'élança presque de sa chaise, soudainement impressionnée par ce changement. Pauvre Maggie! Elle paraissait bien belle quand son âme était ainsi émue par le pouvoir inexorable des sons. On aurait pu voir un léger frémissement à peine perceptible la parcourir, tandis qu'elle se penchait en avant, les mains serrées comme pour se contenir, tandis que ses yeux dilatés brillaient de cette expression franche et enfantine d'étonnement et de plaisir, qui reparaissait toujours en elle dans ses moments les plus heureux. Lucy, qui les autres fois avait toujours été occupée au piano, dans les moments où Maggie avait cette expression, ne put résister à l'impulsion de se glisser vers elle et de l'embrasser. Philippe aussi l'apercevait de temps en temps par-dessus le cahier ouvert sur le pupitre et pensait qu'il ne l'avait jamais vue sous le charme d'une si puissante influence. « Encore, encore !» dit Lucy, quand le morceau eut été répété. « Encore quelque chose d'animé. » Maggie dit toujours qu'elle aime un grand développement de voix. « Ce sera alors, prenons la route, » dit Stephen. « C'est très convenable pour une matinée pluvieuse. Mais êtes-vous prête à abandonner le devoir le plus sacré de la vie pour venir chanter avec nous ?»« Oui, » dit Lucy en riant, « si vous voulez bien chercher l'opéra du mendiant dans le grand casier. Il a une couverture froissée. » C'est une remarquable indication, si l'on considère qu'il y a ici une masse de couvertures de la même qualité, dit Stephen en tirant le casier. Oh, jouez-nous quelque chose en attendant, Philippe, dit Lucy, s'apercevant qu'il laissait errer ses doigts sur les touches. Qu'avez-vous trouvé là? Quelque chose de délicieux que je ne connais pas. Ne connaissez-vous pas ceci, dit Philippe en marquant l'air un peu plus nettement. C'est de la sonnambula. « Ah, perché non posso odiarti ?» Je ne connais pas l'opéra, mais il paraît que le ténor dit à l'héroïne qu'il l'aimera toujours, lors même qu'elle l'oublierait. Vous me l'avez entendu chanter avec les paroles en anglais. Ce n'était pas tout à fait sans intention que Philippe avait hasardé cet air, qui pouvait exprimer indirectement à Maggie ce qu'il n'osait prendre sur lui de lui dire ouvertement. Celle-ci était attentive à ce qu'il disait, et quand il commença à chanter, elle comprit la plainte passionnée de cette musique. Ce ténor suppliant n'avait pas de très belle qualité comme voix, mais ce morceau n'était pas une nouveauté pour elle. Il le lui avait chanté par fragments et d'une voix contenue, pendant leur promenade au milieu des buissons de verdure, sous le frêne incliné des fonds rouges. Il semblait qu'il y eût quelques reproches dans les paroles. Était-ce l'intention de Philippe? Elle aurait voulu lui faire comprendre plus distinctement, dans leur conversation, qu'elle ne pouvait raviver un espoir d'amour entre eux, seulement parce que cet espoir ne pouvait s'accorder avec son inévitable position à elle. Elle fut touchée, mais non émue par ce chant qui lui rappelait distinctement ses anciens souvenirs et lui apportait des regrets plutôt que de l'agitation. « Voilà votre manière à vous autres, ténors, » dit Stephen, qui attendait la musique à la main, tandis que Philippe terminait l'air. Vous démoralisez le beau sexe en gazouillant votre amour et votre constance, malgré toutes sortes de mauvais traitements. Même la perspective d'avoir la tête coupée et servie sur un plat, comme certains troubadours du Moyen-Âge, ne pourrait vous empêcher d'exprimer votre entière résignation. Il faut que j'administre un antidote, pendant que Mestine s'arrache à ses bobines. Stephen entonna avec une vive énergie, « Dois-je, me livrant au désespoir, mourir parce qu'une femme est belle ?» et sembla remplir toute l'atmosphère de la chambre d'une nouvelle influence. Lucy, toujours fière de ce que faisait Stephen, alla vers le piano en lui souriant et le regardant avec admiration. Et Maggie, malgré son envie de résister à l'animation de l'air et du chanteur, fut captivée et agitée par une influence invisible, un courant plus puissant que ses efforts. Mais, fâchée contre elle-même, résolue à ne pas se trahir, elle reprit son ouvrage et continua à faire des points faux et à se piquer les doigts, avec beaucoup de persévérance, sans lever les yeux et sans faire attention à ce qui se passait, jusqu'à ce que les trois voix s'unissent au passage « Prenons la route ». Je crains qu'elle n'eût éprouvé une jouissance subtile et insinuante si elle avait su combien cet audacieux Stephen était entièrement occupé d'elle. Comment il passait avec rapidité d'une résolution de la traiter avec une indifférence marquée à un désir impérieux de quelque signe de sympathie venant d'elle, de quelque échange de mots ou de regards subjugués. Il ne fut pas longtemps sans en trouver l'occasion, lorsqu'ils arrivèrent au morceau de la tempête. Maggie, désirant un tabouret pour ses pieds, traversait la chambre pour en chercher un, quand Stephen, qui ne chantait pas dans cet instant et qui suivait tous ses mouvements, devina son intention, se précipita pour la prévenir et lui présenta le tabouret avec un regard suppliant qu'il était impossible de ne pas rendre avec reconnaissance. Et puis, se voir placer le tabouret avec soin par un personnage si sûr de lui-même, non par un personnage quelconque sûr de lui-même, mais par un en particulier, qui tout d'un coup paraît humble et inquiet, s'arrête encore baissé pour demander s'il n'y a point quelque courant d'air à cette place entre la porte et la cheminée, et si elle ne veut pas lui permettre de changer de place la table à ouvrage. Ces petits riens appelleront un peu de cette tendresse dangereuse, toujours prête dans les yeux d'une femme, qui a dû forcément, pendant son existence de jeune fille, apprendre les leçons de la vie dans un langage plus trivial. Et pour Maggie, ces attentions-là n'avaient point été des incidents de tous les jours. Elles étaient un nouvel élément dans son existence et trouvaient tout palpitant son vif désir d'hommage. Ce ton de douce sollicitude la força de regarder le visage abaissé devant elle et de dire « Non, je vous remercie ». Et rien ne put empêcher ce regard mutuel d'être délicieux pour tous les deux, comme il l'avait été le soir précédent. Ce mouvement, simple acte de politesse de Stephen, avait à peine pris 2 minutes, et Lucy, qui chantait, ne s'en aperçut pas. Mais pour Philip, dont l'esprit déjà rempli d'une vague anxiété devait probablement trouver quelque signification dans tout incident ordinaire, cette vivacité soudaine chez son ami et le changement du visage de Maggie, qui reflétait sans doute le rayonnement de celui de Stephen, lui parurent un contraste si frappant avec les précédents signes d'indifférence exagérée qu'il y trouva une pénible confirmation. La voix de Stephen, retentissant de nouveau, froissa sa susceptibilité nerveuse comme si c'eût été le bruissement d'une feuille métallique, et il se sentit disposé à faire éclater le piano en son discordant. Il n'avait, en réalité, aucun sujet positif de soupçonner quelque sentiment extraordinaire entre Stephen et Maggie. Sa propre raison le lui disait, et il désira retourner chez lui tout de suite pour réfléchir froidement à ses suggestions jusqu'à ce qu'il fût convaincu lui-même de leur nullité. Mais pourtant, il voulait rester aussi longtemps que Stephen, être toujours présent quand Stephen serait près de Maggie. Il paraissait au pauvre Philip si naturel, bien plus si inévitable que tout homme approchant de Maggie en tombât amoureux. Il savait qu'il n'y aurait aucun espoir de bonheur pour elle si elle était entraînée à aimer Stephen Guest. Et cette pensée l'encourageait à considérer son propre amour comme un échange moins inégal. À l'aide de cet étourdissant tumulte intérieur, il en vint à jouer très faux, et Lucy le regardait avec étonnement lorsque Madame Taleva, entrant pour les engager à venir déjeuner, fit cesser brusquement la musique. « Ah, monsieur Philip, » dit monsieur Dean, quand ils entrèrent dans la salle à manger, « je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Votre père n'est pas à la maison, je crois, n'est-ce pas? J'ai passé à son bureau l'autre jour et l'on m'a dit qu'il était en voyage. » « Il est allé passer plusieurs jours à Matport pour affaires, » dit Philip, « mais il est de retour maintenant. » Aussi attaché que jamais à son dada de culture. « Je le crois, » dit Philip, assez étonné de cet intérêt soudain aux affaires de son père. « Ah, » dit M. Dean, « il possède quelques terrains de ce côté-ci de la rivière, aussi bien que de l'autre, je crois. »« Oui, monsieur. » »« Ah, » continua M. Dean, tout en servant le pâté de pigeon, « il doit trouver que le fermage est un lourd article, un agrément dispendieux. Je n'ai jamais eu de fantaisie de campagne. Je n'ai jamais donné là-dedans. Et le pire de toutes ces fantaisies, c'est quand les gens s'imaginent devoir en tirer parti pécuniairement. Ils jettent alors leur argent là, comme du blé qu'on prend dans un sac. » Lucy se sentit un peu nerveuse de la critique en apparence gratuite que son père faisait des dépenses de M. Wakeham. Mais cela n'alla pas plus loin, et M. Dean devint, contre son ordinaire, silencieux et méditatif pendant le déjeuner. Lucy, habituée à surveiller tout symptôme chez son père, et ayant des raisons devenues récemment très fortes de prendre un beaucoup plus grand intérêt à ce qui se rapportait à Wakeham, éprouva une curiosité inaccoutumée de savoir ce qui engageait son père à faire ses questions. Avec cette idée en tête, elle eut recours à sa méthode ordinaire quand elle désirait lui dire ou lui demander quelque chose de particulier. Elle trouva, après le dîner, une occasion de faire quitter la chambre à sa tante Taleva et s'assit sur une petite chaise aux genoux de son père. M. Dean, en de telles circonstances, considérait qu'il jouissait des moments les plus agréables que son mérite lui eût procurés dans la vie, quoique Lucy, n'aimant point à avoir ses cheveux saupoudrés de tabac, commença ordinairement, en semblable occasion, par s'emparer de la tabatière. « Vous n'avez pas encore envie de dormir, papa, n'est-ce pas ? » dit-elle, en approchant sa chaise et ouvrant les gros doigts qui tenaient la tabatière. « Pas encore, » dit M. Dean, en jetant un regard sur ce que contenait encore la bouteille. « Mais qu'est-ce que tu veux ? » ajouta-t-il, en pinçant avec amitié la joue à fossette. « M'arracher quelques souverains de plus pour ton bazar et... » « Non, je n'ai point de vil motif aujourd'hui. Je ne veux que causer et non mendier. Je désire savoir ce qui vous a engagé à faire des questions à Philip Wakem, aujourd'hui, sur les fermages de son père. » Cela paraissait assez singulier, parce que vous ne lui dites presque jamais rien de son père. Et pourquoi vous inquiéteriez-vous que M. Wakem perdit de l'argent avec sa fantaisie ? « Quelque chose qui a rapport aux affaires, » dit M. Dean, avec un geste qui semblait repousser toute ingérence dans ce mystère. « Mais, papa, vous dites toujours que M. Wakem a élevé Philip comme une demoiselle. Comment alors avez-vous pu penser que vous puissiez tirer de lui quelques renseignements au sujet des affaires ?» Ces questions soudaines faisaient un singulier effet. Philip en paraissait surpris. « Cela ne fait rien, enfant, » dit M. Dean, désireux de justifier un savoir-vivre qu'il avait essayé d'améliorer à mesure qu'il s'élevait. On dit que le moulin de Wakem et sa ferme de l'autre côté de la rivière, le moulin de Dorlcote, de ton oncle Talliver, tu sais, ne lui rapporte pas autant que précédemment. Je désirais savoir si ton ami Philip laisserait échapper quelques mots sur l'ennui que peut éprouver son père de cette propriété. « Comment voudriez-vous acheter le moulin, papa, s'il voulait s'en défaire ?» dit vivement Lucy. « Oh, dites-moi tout, et puis vous aurez votre tabatière si vous le faites. » Maggie dit qu'ils mettent tous leur cœur à ce que Tom puisse un jour racheter le moulin. Une des dernières choses que mon oncle a dites à Tom, c'est qu'il fallait qu'il en redevint possesseur. « Chut, petite chatte, » dit M. Dean, profitant de la tabatière rendue. « Tu ne dois pas dire un mot de cela, entends-tu ? Il y a très peu de chances à ce qu'ils puissent, eux ou quelque autre personne, retirer le moulin des mains de Wakem. Et si Wakem savait que nous en avons envie avec le projet que les Talleyrand puisse en redevenir propriétaire, il n'en serait que moins disposé à s'en défaire. Cela est naturel, après ce qui s'est passé. Il s'était assez bien conduit avec Talleva avant cela, mais les coups de fouet ne peuvent guère se payer avec des dragées. « Eh bien, papa, » dit Lucy avec un petit air solennel, « voulez-vous vous fier à moi ? Vous ne me demanderez pas mes raisons pour ce que je vais vous dire, mais j'en ai de très fortes, et je suis très prudente, je vous assure. » « Bien, nous écoutons. Eh bien, je crois que si vous me permettez de mettre Philip dans la confidence, de tout lui dire à l'égard de votre désir d'acheter cette propriété, parce que mes cousins désirent l'avoir et du motif qu'ils y portent, je crois que Philip nous aidera à obtenir la chose. Je sais qu'il sera disposé à le faire. Je ne vois pas trop comment cela se peut, enfant, » dit M. Dean, l'air embarrassé. « Pourquoi s'en inquiéterait-il ? » Puis, jetant soudain un regard pénétrant sur sa fille, « Tu ne t'imagines pas que le pauvre garçon soit amoureux de toi et que tu puisses lui faire faire ce que tu veux. » M. Dean se sentait parfaitement rassuré au sujet des affections de Lucy. « Non, papa, il s'occupe fort peu de moi. Pas autant que je ne m'occupe de lui. Mais j'ai une raison pour être tout à fait sûr de ce que je dis. Ne me la demandez pas. Et si vous la devinez, ne me le dites pas. Seulement permettez-moi d'agir à cet égard comme je le juge convenable. » Lucy se leva de sa chaise pour s'asseoir sur les genoux de son père et l'embrasser après cette dernière requête. « Es-tu sûr que tu ne fasses rien de dangereux à présent ? » dit-il en la regardant avec bonheur. « Oui, papa, tout à fait sûr. Je suis très sage. J'ai tout votre talent pour les affaires. N'avez-vous pas admiré mon livre de comptes quand je vous l'ai montré ? Bien, bien. Si ce jeune homme peut garder le secret, il n'y aura pas beaucoup de mal de fait. » Et pour dire la vérité, je crois qu'il n'y a pas grande chance pour nous de toute autre manière. »